Bonjour. Donc, nous allons poursuivre la méditation de cet épître aux Hébreux. Et ce matin, nous arriverons au chapitre 3 et nous lirons les versets 1 à 6. Mais avant de faire cela, j'aimerais faire une remarque. Au chapitre 2 et au chapitre 3, il y a trois fois la mention c'est pourquoi. Alors c'est bien de temps en temps de faire un peu de grammaire. Je me rappelle l'époque où, il y a très longtemps, la plume vercingétorique, c'est sergent-major, qu'on a trempé dans l'encre et on apprenait les subtilités de la langue française. La formule « c'est pourquoi » c'est un connecteur qui sert dans le texte à introduire une conséquence intimement liée à la cause qui vient d'être énoncée, ou la conclusion de ce qui vient d'être dit. Alors j'aimerais revenir sur le premier c'est pourquoi au chapitre 2, verset 1. Il est dit c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Et quel était le texte qui précédait une vérité de la palisse, chapitre 1. Mais quand on réfléchit au chapitre 1, au chapitre 2, ce sont des chapitres clés qu'il nous faudrait méditer et réellement nous les approprier, car c'est toute la suite de la prédication, parce que l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas un sermon, ce n'est pas un commentaire, mais c'est un juif qui était très cultivé, et sa forme, c'est exhortation, explication. Parfois, c'est difficile de trouver le fil conducteur. Mais que nous dit-il au chapitre 1? Il commence, il n'y a pas de salutation, on en a déjà parlé, contrairement à l'apôtre Paul, qui savait présenter, il se présentait. Ici, on commence directement. Et on retrouve un peu le discours juif, le discours des prophètes, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils ou en Fils. Ici, il établit une vérité, c'est que le public auquel il s'adresse, ce sont des juifs convertis, ou peut-être d'autres qui ne le sont pas encore, car n'oublions pas dans ce qui est dit dans le livre des Actes, au chapitre 15, verset 11, chaque sabbat, on lisait la parole de Dieu, on la méditait. Et quand on lit l'épître aux Hébreux, on ne peut pas faire abstraction de la connaissance de l'Ancien Testament. Ils savaient parfaitement de quoi l'on parlait. J'en veux pour preuve le discours d'Étienne au chapitre 7 des Actes. Lisez ce chapitre, il est merveilleux. Et au lieu de faire une démonstration, Dieu était ceci et cela, il commence par raconter l'histoire de ce peuple que Dieu a choisi. Et l'on voit que l'Épître aux Hébreux, il reprend aussi le discours, il redémarre sur les fondamentaux de ce qu'était le peuple d'Israël. Quand il parlera plus tard, on le verra, du tabernacle, il parle du tabernacle qui était dressé dans le désert. Il ne parle pas du temple qui était encore présent à cette époque. Et une anecdote à se rappeler, c'est que dans le temple, le lieu très saint, le voile a été déchiré au moment où cette prédication est donnée. Il faut y penser. Ce sont tous des symboles. Alors que dit ce chapitre 1? Premièrement, il nous parle du Fils et on voit la personne de Jésus-Christ, héritier, reflet de la gloire. Je ne reviens pas sur cela, Benjamin en a parlé longuement, mais surtout, il conclut la présentation par « Il s'est assis à la droite de la majesté divine » dans les lieux très hauts. C'est fondamental, ce texte. Et quand on a fait la présentation de l'Épître aux Hébreux, chaque fois qu'il est parlé de ce texte, on voit qu'il y a une progression dans la révélation de Dieu. Ici, il ne nous est plus parlé de Jésus-Christ dans les évangiles, mais du Christ dans sa gloire. Et merci à Matthias d'avoir lu Apocalypse 5. Et tout de suite, ce qui suit, Jésus est devenu supérieur aux anges. Christ est assis à la droite de Dieu. Il est dans la gloire. Le Christ, dans l'Épître aux Hébreux, c'est le Christ dans ce qu'on appelle théologiquement l'exaltation. Il est là, dans sa puissance. Et les anges, ils sont à son service. Et là, il est d'autant plus supérieur. Et quand on a parlé à l'ascension, on a parlé de Philippiens, Christ, pour un temps, s'était abaissé. Il avait quitté la gloire. Il n'a pas perdu sa gloire. Et maintenant, il est de nouveau dans la gloire auprès du Père. Lisons à ce sujet, ou lisez-le plutôt, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, ce qu'il dit dans sa prière. Il est important pour nous de savoir que Christ règne et que les anges l'adorent. Et il y a eu un message sur les anges, et on méconnaît le ministère des anges. On le sous-estime. Mais Dieu les utilise. Quand je pense à Jésus, quand il a été livré et que Pierre a voulu sortir son épée, qu'a dit Jésus ? Je pourrais faire venir 12 légions d'anges, c'est-à-dire 60 000 anges environ. Vous imaginez ? Et dans le texte que nous avons lu d'Apocalypse, ce sont des myriades de myriades. Alors, Christ exalté à la droite de Dieu parfaitement. Alors, il faut bien penser que ici, c'est l'accomplissement. Les prophètes avaient annoncé le Messie. Et ce qui est intéressant, on l'a fait quand on a étudié l'évangile de Matthieu, on a parlé de cette période intertestamentaire, période qu'il nous faut connaître, et l'on voit qu'il y a eu différentes doctrines, je ne veux pas vous en parler ce matin, mais il y a un livre qui a été écrit, c'était le livre de Tobie, et l'on voit la place des anges à qui on s'adresse, à qui on les prie et tout ça. Et tout ça, c'est pour ça qu'il y a une rectification en disant que Christ, il est au-dessus des anges, il est le seul nom par lequel nous puissions nous approcher de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 11. Voilà, c'est le premier « c'est pourquoi ». Voilà ce qui nous a été dit, et c'est bon de nous le rappeler. C'est aussi maintenant le deuxième, la semaine dernière, Luc vous a parlé de Jésus-Christ dans son incarnation, et au chapitre 17, au chapitre 2, pardon, verset 17, l'auteur, il annonce quelque chose. Il est en conséquence, chapitre 2 des Hébreux, en parlant de Jésus, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Il est vrai que nous, ce sont des choses, on les a entendues, on les connaît. Mais pour un juif de l'époque, vous imaginez les sacrificateurs qui s'étaient convertis et qui entendent un tel message. Mais ça a dû tourner dans leur tête. Parce que personne, et d'ailleurs la suite du récit des Hébreux nous montre, personne ne pouvait s'accorder cette dignité d'être sacrificateur. Le seul qui a osé le faire, c'est le roi Ozias, dans le livre des Chroniques au chapitre 25. Il a voulu aller offrir des sacrifices. Ce faisant, Dieu l'a frappé de la lèpre. Donc, on ne pouvait pas faire. Donc, en Christ, l'accomplissement en Christ est à la fois prophète, sacrificateur et roi. Donc, ces trois offices, on les trouve en Christ. Alors, on étudiera plus loin quand on parlera qu'il a été mis selon l'ordre de Melchisédek. Mais là, nous sommes devant des décrets divins. Dieu déclare les choses, il les fait. À nous, de nous y conformer. Parfois, on a des difficultés à comprendre, mais acceptons-les par la foi. Alors, le thème de ce matin, qui est une suite merveilleuse de ce qui a été dit la semaine dernière, je n'ai pas entendu le message, donc, mais comme c'était mon genre, ça peut être que bien. Voilà ce que dit le texte. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Premier point. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Première partie de cette exhortation, frères saints. Et quand on lit les chapitres, au chapitre 2, les versets, faut que je les retrouve, les versets 10, il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Imaginez, jusque maintenant, selon l'ordre qui était établi, pour entrer dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient le faire, et dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait le faire, mais une fois par an, selon certaines règles. Et là, il y a une nouveauté, si je puis dire, il y a un changement, on dit d'économie, c'est que Dieu, Jésus-Christ, à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, qui répondent à son appel, il les appelle frères, saints, sanctifiés, mis à part. Alors la sanctification, c'est un acte juridique. Et ensuite, la marche avec Christ, c'est un autre domaine, c'est la part que nous faisons avec lui pour grandir. Mais comment, moi j'étais interpellé, mais comment parlons-nous des frères et sœurs, mes sœurs, vous êtes inclus, de Jésus-Christ? Comment en parlons-nous? Si nous sommes choisis, si nous sommes acceptés dans la présence de Dieu et que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, et je vous demande pardon, parce que moi-même j'ai été repris et humilié, et je dis, mais Seigneur, comment parlons-nous nos frères? Et comble, je ne vais pas me moquer, mais les KES, n'est-ce pas, qu'on s'appelle les assemblées de frères? Les frères, je me rappelle que quand on allait voir nos frères de l'église de Pentecôte, ils nous appelaient toujours les frères de Plymouth. Ils connaissaient certainement mieux notre histoire que nous la connaissions. Ça, c'est le premier point. Mais ça continue. Vous avez part à la vocation céleste. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Si je vous sors ce mot, vous allez me dire, la vocation, c'est être médecin, c'est être instituteur. Mais là, c'est plus que ça. Cela signifie qu'il y a un appel que Dieu adresse à chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes acceptés dans la maison de Dieu, mais en plus, Dieu nous donne des dons, des talents pour aller plus loin, pour marcher avec lui. Et celui qui en parle le mieux, c'est l'apôtre Paul. Il faut lire tout le chapitre 26 du livre des Actes, mais nous n'allons pas le faire, mais on va juste retenir ce que Paul il a dû justifier devant des autorités du pourquoi de ce qu'il faisait. Et il a pu dire ceci, je cherche dans ma Bible, acte 26. Il a entendu, Paul a entendu, il dit ceci, il a entendu, il rappelle son expérience sur le chemin de Damas, et il dit, je répondis, qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit, verset 15, pardon, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous retrouverez le même sens dans l'Épître aux Galates. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Paul n'a pas résisté à la vision céleste. Et Dieu nous appelle. Aujourd'hui, il continue. Et on va, le prochain, c'est pourquoi, ce que dit le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Vous voyez, il y a une suite de recommandations dans cet épître. Entendre la voix de Dieu, mais ne résistez pas. Venez à lui, répondez. Et ici, il dit maintenant une autre chose qui doit nous aider dans notre vie de pèlerin sur terre. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ça, c'est la deuxième partie. Considérez l'apôtre. Ici, c'est l'envoyé de Dieu. Apôtre égale envoyé. Considérez, et là, il nous faudrait lire l'évangile de Jean. Et Jésus a dit ceci au chapitre 8, 5, verset 36. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres montrent que ce que je fais témoigne de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Le souci de Jésus, c'était de montrer le Père, de montrer qui était le Père. Et Jésus a pu dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous connaîtrons Dieu le Père par la connaissance de Jésus-Christ. C'est essentiel. Alors, que nous puissions considérer Jésus, l'envoyé, qui veut nous faire connaître le Père et la vie éternelle, afin qu'il croie en toi. C'est sa prière. Oui, à vos souhaits. Et le souverain sacrificateur. Alors, il faudrait dire beaucoup de choses, mais juste pour se rappeler, où on dit grand prêtre selon les traductions, au moment où cette épître est écrite, il y avait du désordre. Car déjà, l'encens avant Jésus-Christ, il y avait un roi qui s'appelait Aristobule, qui s'était déclaré roi et sacrificateur. Et toute cette famille des Maccabées, qui ont permis la délivrance de Judas, s'était proclamé roi et sacrificateur. Donc, ils avaient déjà enfreint la loi de Dieu. Et tous les souverains sacrificateurs de cette époque étaient nommés par les potentats de l'époque, c'était les rois, c'était les gouverneurs qui choisissaient les souverains sacrificateurs qui leur plaisaient et qui leur convenaient pour appliquer leur politique. Et autre chose, quand on voit cette époque, il suffit de lire Joseph, qui est un écrivain, un juif de l'époque, pas le Joseph présent dans la salle, mais c'est pas lui, oui, il dit non. Tant pis, je voulais t'attribuer cet honneur, mais Il nous montre cette période qui est très troublée, une période où il y a révolte, où les Juifs s'entretuent entre eux, où Titus va arriver, et comme un raz-de-marée, d'abord Vespasien son père, puis ensuite Titus, comme un raz-de-marée, vont soumettre l'État d'Israël à l'état de ruine, et on sait que ça s'est terminé en l'an 70. Ça, c'est la petite anecdote pour nous rappeler le contexte dans lequel ces Juifs ont reçu le message de Dieu. Alors, l'annonce que le souverain sacrificateur, maintenant, ce n'était plus Aaron, mais c'était Jésus, et lui seul vers qui l'on devait se tourner. Mais on ne s'arrête pas là, car Dieu avait le souci de sa maison. Au verset 4, il nous a dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Et si on lit dans Exode 25, Dieu avait donné les instructions à Moïse pour qu'il construise un tabernacle. Et maintenant, puisqu'il y a un changement de souverain sacrificateur, il allait y avoir un changement aussi dans le culte qu'on devait rendre à Dieu. Et Jésus le disait à la Samaritaine, « Vous, vous adorez ce que vous connaissez, mais il y aura un temps où on adorera Dieu en esprit et en vérité. » Et ce temps-là était venu, il s'instaurait, avec la venue de Jésus-Christ. Alors cette maison, avec délicatesse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Verset 5, « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. » Vous voyez, il est serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et de nouveau, il prend appui sur les Écritures. Dans Deutéronome 15, Moïse avait annoncé qu'il viendrait un autre prophète que lui et qu'il faudrait l'écouter. Donc, l'auteur, il établit le lien en disant maintenant ce prophète, il est venu, c'est Jésus, ce prophète qui était annoncé par Moïse. Autre chose, on en parlera de Moïse, il y aura toute une étude sur lui, mais Moïse aussi, il a été le médiateur. Quand on voit faut que je retrouve mes notes. Au chapitre 20 de l'Exode, le peuple ne pouvait pas entendre la loi. Ils ont dit, monte à la montagne et toi, parle-nous au nom de Dieu. Chapitre 20, verset 18. On voit qu'il s'est tenu entre Dieu, Moïse, et le peuple. Il parlait de Dieu, et c'était lui l'intermédiaire. Et au chapitre 32, après le veau d'or, on voit la prière de Moïse qui intercède. Je vous cite les passages, parce que je ne vais pas trop lire ce matin, et alourdir et allonger la prédication. Mais au chapitre 32, on voit que Moïse qui intercède, qui implore Dieu, qui dit « Mais aie pitié de ce peuple ». Et pitié, c'est de ton peuple. Et parce que Dieu avait dit, voilà, je veux que ce soit toi maintenant le peuple. Il a dit, non, je ne veux pas cet honneur. Je veux que ce peuple que tu as choisi reste ce peuple. Alors je crois que c'est important, on ne va pas le faire maintenant, mais de se rappeler ce que fut Moïse. Moïse, c'était le fondateur. On parlait de la loi de Moïse, on ne parlait pas de la loi du Sinaï. Vous imaginez, remettre, non pas en cause, mais pour dire Moïse, il était fidèle pour un temps, jusque maintenant. Moi, Jésus, maintenant, je suis établi sur la maison de Dieu. C'est ce qu'il déclare. Il dit, Christ, verset 6, et Christ est fidèle, mais comme fils sur sa maison. Pas comme dans sa maison, mais sur sa maison, c'est-à-dire il fait partie de la maison. Il est l'héritier. Il est celui qui va prendre soin de cette maison. Parce qu'aujourd'hui, une maison, pour nous, ça ne signifie pas grand-chose. Mais à cette époque, une maison, c'était un ensemble de bâtiments. C'était souvent des exploitations agricoles où il y avait des serviteurs, il y avait la famille qui vivait. C'était une communauté. Et il y avait un chef. Enfin, c'est des mots qu'on n'aime pas trop à notre époque, excusez-moi, mais il y avait un responsable. Et c'était le père, c'était le patriarche, c'était celui qui parlait. Et Christ, il est serviteur sur sa maison. Et il va faire une déclaration importante, une nouvelle orientation. Et il dit, sa maison, c'est nous, ses frères saints pour lesquels j'ai donné ma vie et que j'accepte dans ma présence. Et ici, ça débouche sur l'Église. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre a pu dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, ceci. Des textes que nous connaissons, mais qu'il est bien de se rappeler. Voici, je mets en Sion, verset 6, une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous imaginez toutes les qualificatifs que Pierre vient d'énoncer, une race élue, sacerdoce royal, ce n'est plus du tout réservé qu'à une seule famille, la famille de Lévi, mais c'est vous tous, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois, et c'était le cas de nombreuses personnes, et en particulier les non-juifs, ils avaient enfin la réalisation de la promesse faite à Abraham que toutes les nations seraient bénies. Elles l'étaient déjà avant, mais là, c'est l'ouverture du salut à toutes les nations. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, voilà le message que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a voulu faire passer à ses contemporains et ce message qui est encore d'actualité. Que Dieu soit béni parce que nous pouvons considérer Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, mais qui est fidèle. Et on verra dans la suite de cet Épître aux Hébreux, au chapitre 9, il nous est dit que Christ est notre garant. Il est celui qui se tient devant Dieu. Et j'aime illustrer cela par ce qui est dit dans le livre de Zacharie, quand il y a un sacrificateur qui est dans la présence de Dieu, il est plein de vêtements sales et il est accusé. Et puis là, il y a une voix qui dit, mais enlevez-lui ses vêtements sales. Christ, quand est notre garant, quand on s'approche de Dieu, lorsque nous avons confessé nos péchés, nous avons libre accès. Et Christ prie pour nous. Et on en reparlera plus tard quand on verra le ministère de Jésus-Christ. Il est compatissant, miséricordieux, et il intercède pour chacun d'entre nous. Et il a mis en nous le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes ces choses. Et j'aimerais conclure uniquement au chapitre 4 avec ce merveilleux passage. Approchons-nous donc, verset 16, 4-16, Hébreu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins.